chez les personnes autistes, le corps ne s'oublie pas. C'est pas un vêtement qu'on enfile ou c'est un vêtement, il est mal ajusté. On n'arrive pas à faire abstraction de la sensibilité tout court.
Tous pareils ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Florian, dans la peau d'une personne autiste. C'est en découvrant son livre « Mes labyrinthes, vivre avec la différence » que j'ai eu envie d'interviewer Florian Forestier. Florian aime les mots, il les manie avec un mélange de précision et de poésie, et c'est avec ce langage bien particulier qu'il parle de son autisme et de la singularité dans un monde très normé. Dans cet épisode, il livre une réflexion approfondie et sensible sur ce qu'il vit, perçoit et ressent en tant que personne autiste. Il nous parle de son rapport au corps, aux émotions, de son lien à soi, aux autres, toujours intense, pour le meilleur et parfois pour le plus difficile. Voici un peu de son histoire. Bonjour Florian.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots pour démarrer ?
Alors, j'ai 42 ans, je m'appelle Florian Forestier, j'ai différentes casquettes, je suis docteur en philosophie, je suis écrivain, j'ai diverses activités, j'ai un diagnostic de TSA depuis l'âge de 25 ans, je suis né en Suisse, je suis franco-suisse,
et ben c'est parfait.
J'ai un accent.
oui. Léger, vous avez reçu votre diagnostic à l'âge de 25 ans, comme vous le disiez, après des années de brouillard. Souvent, les personnes autistes disent que c'est un soulagement de recevoir un tel diagnostic parce que ça met des mots sur des choses difficiles à comprendre. Vous, vous dites plutôt que ça vous a déstabilisé ce diagnostic ?
Je serais mitigé. Alors, ce n'était pas une surprise totale, parce que c'est quelque chose que moi j'avais en tête comme une option. Simplement, ça n'avait pas été posé médicalement. Et puis, depuis très très jeune, j'avais un diagnostic de trouble d'attention. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose avec ça. Sans doute le trouble d'attention masquait un peu le reste. Disons, il y a eu à la fois l'effet positif, malgré tout, de pouvoir identifier beaucoup mieux ce qui me caractérisait à partir de là, d'avoir un mode d'emploi un peu meilleur. Mais c'est vrai que le diagnostic, c'est toujours un moment ambigu parce que ça vous engage dans une lecture un peu rétrospective de ce que vous êtes, de ce que vous aimez et de ce que vous faites. Et une lecture qui est aussi très influencée par les gens que vous vous mettez à rencontrer, en particulier les spécialistes, médecins ou psychologues. Et dans mon cas, par exemple, j'étais engagé dans des recherches, je faisais ma thèse, enfin j'avais déjà commencé à écrire. Il y a pas mal de choses que je faisais avec beaucoup d'énergie, voire de passion. Et à cause de ce diagnostic, à cause du regard extérieur, je me suis mis à me demander, à ne plus savoir moi-même ce qui était vraiment de l'ordre de la, de la passion intellectuelle, de l'ordre du travail intellectuel, et ce qui était de l'ordre de l'intérêt spécifique. Et je me suis mis à me soupçonner de mes propres élans, et une partie de ce qui était mes plus grandes forces, et en particulier dans l'écriture, hein, j'ai plutôt travaillé les censurer. Disons, j'ai vraiment changé de regard sur ce qui était étrange en moi, ce qui était bizarre en moi, et sans doute un peu trop. À force de trop travailler sur moi, j'étais allé jusqu'à limer ma propre singularité, mes propres automatismes, mes propres passions, ma propre plus-value dans l'existence, et donc je ne savais plus pourquoi je vivais. Et c'est vraiment, il a vraiment fallu que le temps passe pour que je me réautorise à, je vais pas dire à être moi-même, mais que je me réautorise à composer avec ma spécificité, avec ma différence. Ça s'est vraiment vu aussi dans le fait de me remettre à écrire.
Comment on fait quand même pour avancer sur ces choses-là, sans, comme vous dites, s'arc-bouter en disant « je dois absolument travailler ces difficultés-là ».
Mais je n'ai pas de réponse absolue. Ouais. Mais ce que j'ai pu remarquer, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est un des plus grands ralentisseurs, quelque chose qui inhibe les capacités de progrès, c'est l'anxiété. Donc plus il y a d'anxiété et de pression extérieure, moins on va réussir à apprendre, moins tous les gestes autonomes vont être faciles à mettre en place. Okay. Donc, j'ai envie de dire, plus on arrive à rendre l'environnement moins anxieux ou à faire en sorte de dédramatiser les échecs extérieurs, plus on a de force et plus on a de capacité à
changer. C'est ça qui va développer des ressources.
Mais sinon, l'anxiété, c'est un facteur bloquant.
Oui, bien sûr.
Il y a aussi quelque chose qui est très, très, très bien expliqué dans votre livre, c'est le rapport au corps. Souvent, quand on parle d'autisme, on parle d'une certaine façon de penser. Il y a souvent des choses très, très intellectuelles. Et vous, vous mettez avant tout le corps en avant, en disant que c'est vraiment cette façon de percevoir les choses. Enfin, votre corps, il ne vous lâche pas.
La manière dont on est envahi par la perception, dont on est envahi par le sensible, dont on a un rapport très très intense aux choses, aux objets, et aussi aux émotions, c'est quelque chose de vraiment très très partagé. Mais chez les personnes autistes, le corps ne s'oublie pas, c'est pas un vêtement qu'on enfile, ou si c'est un vêtement, il est mal ajusté, il est trop grand, c'est pas quelque chose qui est la prolongation d'une volonté, quelque chose qui est lourd, qui est parfois aussi exaltant, mais en effet, il est tout le temps présent, que ce soit par le bruit de fond émotionnel, par le bruit de fond sensible, parce que vraiment, moi-même, pendant que je vous parle, j'ai du mal, entre guillemets, à me concentrer vraiment sur ce que je dis, parce que la présence non seulement visuel, mais même sonore, et de tout ce qu'il y a autour, et mes propres sensations de froid, de chaud, etc., de la sensation de la chaise et tout, sont extrêmement présentes. C'est extrêmement difficile de mettre tout ça, disons, entre parenthèses, de l'oublier. Or, en général, chez la plupart des gens, chez les personnes non autistes, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ça aussi qui est une condition de bon fonctionnement. Or, je pense que la plupart d'entre nous, vraiment, on ne met pas ou très rarement le corps entre parenthèses. C'est comme s'il y avait un tri qui se faisait pas, moins facilement. Parce que moi, j'ai quelques hypersensibilités. Oui, si je suis très fatigué, elles vont se manifester, mais la plupart du temps, c'est pas tellement de l'hypersensibilité. C'est simplement que je suis attentif ou pénétré ou traversé par des sensations qui viennent malgré tout habiter mon attention et qui ne devraient pas. Et quand on parle d'hypersensibilité, on a tendance à penser plutôt à des intolérances. C'est pas que ça. C'est vraiment aussi le fait d'être très, 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 j'ai envie de dire, disponible, par exemple, à certains environnements, à certaines couleurs, à pouvoir être capté par une image, capté par un paysage, capté par le bleu du ciel.
Vous parlez aussi de façon très lucide et même assez trash, parfois, de ce que vous inspirez des personnes que vous avez pu côtoyer.
La base biologique de l'empathie, elle est moins là, parce qu'on ne va pas sourire de manière automatiquement accordée aux autres, parce que la posture corporelle est bizarre, parce que y a cette espèce de gestuelle un peu surprenante, et le bizarre qui est presque inhumain, entre guillemets, il y a quelque chose de mi-robotique ou de mi-alien, mais ça suscite plutôt la peur, et d'autant que c'est pas du bizarre non plus spectaculaire. Et moi, je pense toujours à quelque chose qui est très très étudié dans le domaine de la robotique, qu'on appelle la vallée de l'étrange. On se rend compte que plus un robot se met à ressembler à un être humain, plus il est fait pour lui ressembler vraiment, plus il va susciter un rejet, parce qu'il y a une différence, mais la différence devient quasi imperceptible. Et là, ça menace, là, c'est le monstre, c'est l'alien. C'est comme si les mécanismes d'empathie essayaient de fonctionner et ne fonctionnaient pas et se heurtaient à quelque chose qui, du coup, paraît menaçant. Donc, il y a du rejet.
Souvent, ça déconcerte la façon d'exprimer de l'empathie, la façon d'exprimer les émotions ou de ne pas les exprimer, ou de les exprimer différemment, peut déconcerter des personnes non autistes. Et vous parlez d'une empathie en ruisseau. Comment on peut la faire comprendre à des non-autistes ?
Je pense, chez les personnes non-autistes, il y a toute une partie de l'empathie qui est vraiment directe, qui est vraiment liée, là encore, à la posture, qui est vraiment liée, qui est vraiment inscrite dans le corps. Et que chez les personnes autistes, c'est une empathie qui se fait beaucoup plus à distance, qui est moins instinctive. Ça ne veut pas dire qu'elle passe par la réflexion, mais il y a un écart de temps. C'est par exemple le fait qu'on va être touché, mais après coup, par l'émotion de l'autre, au lieu de la partager immédiatement dans un face-à-face. Encore une fois, là, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, quasiment tout le monde le dit. Évidemment que les personnes autistes ont de l'empathie, et pas simplement une empathie réflexive, mais l'empathie ne veut pas dire capacité immédiate et instantanée à partager suffisamment l'état émotionnel d'autrui pour réagir de façon appropriée. Je pense que c'est ça, ça les personnes autistes ne l'ont pas, mais je pense que ça, c'est aussi une définition très très restreinte de l'empathie. Et je pense que toute rencontre n'est pas une rencontre, tout face-à-face n'est pas une rencontre. Ce qu'il y a, c'est que les personnes neurotypiques, comme elles ont des instincts qui permettent de simuler ça, qui permettent d'avoir cette espèce d'empathie de surface, elles peuvent croire qu'il y a des rencontres, alors que les personnes autistes, comme elles l'ont moins, tout se passe dans la distance, et quand il n'y a pas la vraie rencontre, quand il n'y a pas le vrai contact, quand il n'y a pas la vraie, je ne sais pas comment dire ça, la vraie alchimie qui finit par se mettre en place, ben, il n'y a pas de lien du tout. En tout cas, l'empathie, c'est plus que ce qu'on dit d'habitude.
Ouais.
Et les autistes manquent sans doute d'une certaine forme d'empathie qui est la plus fonctionnelle et la plus pauvre. Mais leur forme d'empathie à eux invite aussi à réviser et réviser à la hausse ce qu'est l'empathie en réalité, ce qu'on peut attendre d'elle. Ce qui se passe, mais surtout dans le milieu scolaire et pas seulement, c'est il y a une incapacité qui est vraiment profonde des gens à comprendre les comportements et à comprendre surtout que ces comportements ne soient pas toujours maîtrisables. Quand une personne sent quelque chose qu'il perçoit comme hostile ou qu'il perçoit comme négatif, il a besoin d'imputer de la responsabilité. C'est un mécanisme. Quand on se sent agressé, quand on est bousculé même par hasard, on impute la responsabilité, on pense qu'on a besoin de l'autre qu'il est responsable, sinon qu'il l'a fait exprès, du moins qu'il aurait pu ne pas faire autrement. Donc, les personnes autistes, et en particulier les enfants, ils ont une manière de se comporter qui va activer ça en permanence. Mais il y a vraiment, chez les adultes, surtout dans les encadrements scolaires et dans tous ces milieux-là, où il y a quand même toute une culture qui est à la fois une culture de la responsabilité, une culture de l'égalité, une culture de ce qu'ils pensent être la justice, qui est très inculquée, qui fait que Il faut mettre une explication. Et donc, c'est viscéralement impossible pour eux d'admettre qu'il puisse y avoir quelque chose qui est de l'ordre simplement de l'affectif, de l'ordre de l'anxiété. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent ça renvoie les gens à des fragilités chez eux. Parce que ce que j'ai remarqué vraiment par rapport à moi, c'est que les personnes qui exercent souvent le plus fort rejet, ces deux catégories, alors c'est soit ceux qui ont été élevés dans des milieux avec des valeurs extrêmement strictes, parce que ces valeurs sont indiscutables, mais c'est aussi les gens qui ont eux-mêmes certaines fragilités psychologiques. Et c'est souvent des gens qui ont cumulé les deux, c'est-à-dire qui ont en permanence travaillé sur eux-mêmes pour maîtriser ou contrôler quelque chose, et donc ils ne supportent pas de le voir chez les autres de manière incontrôlable. Me concernant quelque chose, j'ai du mal avec la gestion du temps. Donc j'étais souvent un peu en retard, bon, parfois beaucoup, mais même quand j'étais collégien, lycéen, j'étais toujours un petit peu en retard. Pas tellement, mais un petit peu quand même. Et en même temps, j'étais bon élève, j'étais le meilleur élève de mon lycée. Et je me rappelle qu'il y a un ensemble de profs, et plus encore les surveillants, mais c'était pas possible le retard, c'était des mots dans le carnet, il y avait une réaction de... extrêmement forte par rapport à ça. Il y a un refus même de comprendre que... il y a un refus absolu même avec intervention des parents et autres. J'ai parlé avec plusieurs amis enseignants. Et ça, c'est comme si ça, c'est quelque chose que le corps enseignant ne supporte pas. Parce que comme s'il y avait... Ça fait partie de la mission de devenir adulte. Ça doit être maîtrisé à tel âge. Et c'est impossible, inadmissible... de laisser quelqu'un passer avec ça. Beaucoup plus que d'être mauvais élève, beaucoup plus que d'être violent dans la cour, parce que ça, entre guillemets, c'est normal.
Il y avait un point que vous expliquez, que vous décrivez très bien dans votre livre, dans un chapitre intitulé Hulk, qui est le sujet des crises, de ces effondrements autistiques qui peuvent survenir parfois et qui sont impressionnantes, j'imagine, pour la personne qui le vit et pour la personne qui en est témoin. qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin,
déjà qu'il me semble que la crise, c'est quelque chose qui concerne tout le spectre. Il n'y a pas une différence fondamentale quand ça m'arrive avec quelqu'un qui serait considéré comme très, très peu autonome. Enfin, vraiment, c'est pas une crise de colère, quoi. C'est quelque chose d'autre. C'est un envahissement émotionnel qui bloque tout. Alors ensuite, selon les personnes, selon ce qu'elles ont vécu, ça prend des formes différentes. Il y en a qui se paralysent, qui se tétanisent. Il y en a d'autres qui explosent. Je pense que moi, par exemple, c'est de l'explosion pas tant agressive que défensive. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'il m'arrive ce qu'il arrive à un animal paniqué qui, je sais pas, un chien paniqué ou qui se met à hurler, aboyer de toutes ses forces, à grogner de toutes ses forces pour éviter un danger. Ou encore plus, un chat paniqué qu'on veut baigner, enfin, qui du coup se débat de toutes ses griffes dehors en feulant, en griffant. Moi, c'est un peu ça. C'est une espèce de c'est une espèce d'explosion animale comme ça, vraiment. Alors, le processus qui y mène, j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'arrive un peu à identifier, c'est quand je suis fatigué, quand je suis déjà anxieux, et quand je me trouve aux prises avec une situation que je ne contrôle pas, et dans laquelle il y a une espèce d'effet d'emprisonnement. Enfin, on s'accule. Alors, ça peut être soit une incompréhension. Alors, la chose typique, ça va être, moi, je suis déjà très fatigué. Si je suis très fatigué, je vais manquer un peu de contrôle corporel, donc je vais perdre l'équilibre et autres. Et des gens dans les transports ou autres vont croire que je les agresse. Et donc, alors que je suis déjà en situation de faiblesse et de vulnérabilité, au lieu de m'aider, je vais prendre des insultes. Et quand j'essaie d'expliquer, l'explication, parce que je la dis sur un ton qui semblerait, ou même je vais dire je suis autiste, les gens réagissent de plus en plus agressivement. Mais là, l'étape suivante, ça peut être l'explosion. Alors l'explosion, quand je dis c'est le chat qui est toute griffe dehors et qui feule, etc. Sauf que n'étant pas un chat, moi je le feule en même temps des espèces d'explosions d'injures. Enfin, c'est comme de toutes sortes. Enfin, toutes les avec selon que je connaisse ou pas la personne, je dis en gros, je hurle pas forcément ce que je pense, mais ce que mon cerveau sait être le plus blessant. C'est vraiment la manifestation de la menace et dans toutes les formes possibles. Mais ça a pas, en tout cas chez moi, ça a pas vocation agressive. Ça a vraiment vocation, je crie avec la plus grande intensité possible pour faire comprendre qu'il faut pas m'approcher.
D'accord.
Et donc, dans mon cas, il faut rien faire. Et la plupart du temps, l'erreur, c'est que les gens interviennent pendant, soit comme s'il y avait une rationalité à ce qui se passait, soit parce qu'ils se sentent agressés eux-mêmes et qu'ils se disent qu'il faut qu'ils m'attaquent. Alors ça, c'est la pire des choses, parce que si vous attaquez votre chat pendant qu'il feule, là, il vous griffe. Moi, je suis un homme d'1m83 qui fait pas mal de sport. Donc, quand je réagis comme ça, surtout maintenant, ça va pas du tout. Quoi. Enfin, ça envoie un signal... aux États-Unis, je risquerais de me faire tuer. Quoi. Enfin, je veux dire, la police américaine, d'ailleurs, ça arrive assez régulièrement que des personnes autistes se fassent abattre. Parce que c'est en plus, je vois très bien que l'interprétation des gens qui connaissent pas de ce genre de choses, la plupart du temps, c'est que je suis un drogué en manque. Donc, que je suis dangereux, mais justement, c'est pas le cas. Mais je pense qu'on peut en partie prévenir déjà, parce que soi-même, on sait. Mais déjà, on sait que quand on est dans un état de fatigue ou de nervosité qui peut être propice à ça, on le sent quand même. Donc, au maximum, quand on est dans ce genre d'état, il faut éviter d'aller se mettre dans des situations stressantes ou dans des interactions qui peuvent être conflictuelles. Il faut réussir à déprogrammer le mécanisme qui, de l'anxiété, passe à l'interprétation de « tu es en danger de mort
».
Il faut désactiver des réflexes animaux. Mais je pense que c'est aussi parce que l'intensité émotionnelle, l'anxiété est très très forte chez les personnes autistes et que ça déclenche ces comportements-là. Mais en réalité, ce type de crise, elles sont associées aux autistes parce que c'est eux qui ont plus d'anxiété. Mais je pense que des personnes non autistes peuvent en avoir aussi, dans une situation justement où leur, le niveau d'anxiété dépasse la, la norme. Parce que voilà, du coup, c'est un seuil animal. Votre cerveau, je ne sais pas, je dis archaïque ou tout ce que vous voulez, interprète que vous êtes dans une situation où vous êtes en danger de mort. Et donc, ça, c'est... Voilà, ça, ouais.
D'accord. Non, mais c'est très bien expliqué. Et je pense que c'est très utile d'entendre ce décryptage. Vous avez appelé votre livre donc Mes labyrinthes. Donc on entend bien cette idée de méandre dans lequel évoluent les personnes autistes. Quelles sont les choses qui peuvent aider à trouver un chemin ou qui peuvent en tout cas qui font du bien, qui peuvent aider à se sentir bien?
Alors moi il y a plein de choses. Je pense que déjà la plupart des personnes autistes vous diront que c'est vraiment le hasard des rencontres qui joue. Je pense que le trajet des personnes autistes est extrêmement dépendant des rencontres, beaucoup plus que des autres personnes. Qui a cet aspect, ce sont pas des signaux sociaux généraux qui vont faire qu'on va dans telle ou telle direction. C'est vraiment la rencontre individuelle. Je pense qu'il y a aussi des formes d'environnement qu'on peut chercher plutôt que d'autres. On se rend compte déjà, même sur les enfants, chez les enfants, on se rend compte qu'un enfant autiste qui va être élevé dans un environnement très multiculturel va mieux s'en sortir parce que le fait que ça soit multiculturel, justement, fait qu'il y a moins d'évidence de valeurs partagées, qu'il y a d'autres formes de bizarrerie, qu'il y a une espèce d'habitude à l'ajustement qui, à la fois, fait que les bizarreries sont mieux tolérées et en même temps, il y a plus de modèle d'exemple, il y a un plus grand éventail de possibles auxquels cet enfant peut se rattacher. Et je pense que c'est vrai aussi pour un adulte. Ensuite, non, là je vous parle vraiment des environnements en général. Ensuite, je pense que toutes les personnes autistes vous diront aussi qu'elles ont, que le rapport à la nature, de façon très différente, hein, mais que le rapport à la nature est plus qu'un calmant, mais une inspiration très forte. Qu'il y a des moments où il faut se retirer, qu'il y a des moments où il faut s'exposer au paysage. C'est vrai pour les personnes non autistes, mais c'est beaucoup plus vrai pour les personnes autistes. Ça a un effet extrêmement et apaisant et restimulant. Les personnes autistes, il y a énormément de différences individuelles. Et on met un temps fou à se connaître. Et on apprend vraiment à se connaître, à comprendre comment on fonctionne, à comprendre jusqu'à des niveaux très simples, hein, mais l'alimentation, on met un temps fou à comprendre ce à quoi on est allergique, ce à quoi on ne l'est pas, ce qu'on supporte, ce qu'on ne supporte pas. Donc, on apprend vraiment à faire avec soi-même dans la durée. Ce qui veut dire aussi que, donc ça c'est le côté positif, c'est que contrairement à une bonne partie des gens, souvent plus le temps passe, mieux ça va. Et qu'on, je ne vais pas dire qu'on rajeunit, mais moi je suis en meilleure forme et en meilleure santé maintenant qu'à 20 ans. Et je vois bien qu'il y a de fortes chances que je sois à 50 ans mieux que maintenant en termes de santé. Et qu'il y a quand même une grande capacité, même physiologique, hein, à rester juvénile. C'est quelque chose que les personnes autistes doivent avoir en tête. C'est en vivant, elles apprennent à se connaître et à s'apprivoiser. Donc, qu'elles ont la chance de pouvoir faire aller petit à petit les choses vers le mieux et de ne pas avoir le même rapport à l'âge que les autres personnes.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous. Et vous pouvez également soutenir le podcast en mettant une note sur Apple Podcasts. Merci.